Eh bien, on n'aurait pas assez des doigts de la main si l'on voulait énumérer les crimes que Néron a pu commettre pendant son règne. Au dire de Suétone et au dire des historiens qui l'ont suivi. Tout le monde les a présents à l'esprit d'ailleurs parce qu'ils ont été popularisés par la littérature dont nous parlions l'autre jour. Néron a brûlé Rome, tout le monde sait ça, enfin, est censé avoir brûlé Rome. Il a tué sa mère et c'est là un épisode bien connu de Tacite. Et cependant, c'est un empereur qui a régné 13 ans. Alors, comment expliquer qu'un peuple qui a quand même sa tête sur ses épaules ait pu supporter le monstre qu'on nous décrit ?
Peut-être simplement parce que ce monstre n'a pas existé. Néron porte la lourde responsabilité d'avoir été le premier à martyriser des chrétiens. Et comme la pensée chrétienne a dominé le pouvoir et l'histoire pendant un nombre considérable de siècles, il n'est pas étonnant que Néron ait apparu encore aux yeux de M. Renan comme l'antéchrist. Je pense que la réalité est beaucoup moins simple et que si l'on veut, je ne dis pas porter un jugement équitable sur Néron, ce n'est pas du tout le rôle même de l'historien de porter un jugement, mais d'essayer de comprendre, de présenter un dossier qui ne soit pas grossièrement faussé, eh bien, il faut regarder les faits de très près. D'abord, Néron était dans sa 18e année quand il est arrivé au pouvoir. Et il est mort 14 ans plus tard. C'est donc un homme qui a été chargé de très lourdes responsabilités alors qu'il sortait de l'adolescence. Une adolescence difficile, une enfance qui avait connu des moments extrêmement pénibles pendant que sa mère était en exil. Son père était mort alors que Néron était tout petit, il avait été élevé par des palefreniers, il avait été élevé dans la maison de sa tante Domitia, et il avait été mal élevé. Il avait été surtout séduit par la civilisation grecque, l'aspect hellénique de l'Empire. Il en sera toujours marqué. Il avait été aussi élevé dans un milieu qui abondait en théologiens égyptiens, en astrologues, en mages. Et on lui avait raconté, dès sa petite enfance, qu'il était destiné par un prodige à devenir roi. En effet, lors de sa naissance, il avait été frappé par les rayons du soleil avant que le soleil n'ait touché la terre. Or ça, c'est un présage de royauté dans les croyances égyptiennes. Comme il était dans un milieu égyptisant, vous pensez si ces choses ont fait le tour de la famille et de la faction qui était restée fidèle à la mémoire de Germanicus. Il semblait que le sang de Germanicus allait sortir enfin de l'ombre et que l'on aurait l'empereur que Germanicus aurait pu être. Germanicus étant le père d'Agrippine, donc le grand-père de Néron. Voilà dans quelle atmosphère romanesque, mystique, Néron fut élevé.
Est-ce qu'il a reçu une formation qui le préparait à l'exercice du pouvoir ? Parce que Rome, c'était Rome, mais c'était l'Empire. C'était donc des problèmes tout à fait considérables, les problèmes des frontières, les problèmes économiques.
Oui, il a reçu effectivement cette formation, mais comme nous disons aujourd'hui, une formation plutôt accélérée. En effet, c'est en 48 seulement que Agrippine a épousé Claude et que Agrippine, par conséquent, est revenue, disons, à la surface après sa longue éclipse. Néron, à ce moment-là, a suivi la fortune de sa mère Et dès le début de 49, il a été mis entre les mains de Sénèque. Et Sénèque a été chargé avec Burrus de guider la jeunesse du jeune Aenobarbus, comme il s'appelait à ce moment-là, dont Agrippine était bien décidée à faire un empereur. Alors, il a fréquenté la cour, mais la mort de Claude est survenue assez rapidement, et en 54, c'est-à-dire moins de 5 ans après le début du préceptorat de Néron et de Burrus, le jeune homme se trouva chargé de la lourde charge de l'Empire romain.
Comment se sont déroulées les premières années ?
Vous faites allusion à ce qu'on appelle le quinquennium Néronis, les 5 belles années de Néron, qui vont depuis l'avènement jusqu'à la mort, l'assassinat d'Agrippine en 59. Ce sont des années pendant lesquelles Néron fut ce que les historiens ont appelé ensuite un bon empereur, c'est-à-dire un empereur qui gouvernait en accord avec le Sénat et avec les magistratures de tradition républicaine. Il était entouré d'un conseil dans lequel il y avait Sénèque et Burrus et d'autres qui avaient été choisis par Sénèque en particulier. Si bien que dans ce conseil, le parti de Sénèque avait la majorité. Et Néron, inexpérimenté, et puis aussi plus soucieux d'autre chose, à 18 ans, n'est-ce pas, 19 ans, que des choses sérieuses, bien Néron laissait faire Sénèque. Alors, on eut effectivement 5 années de bon gouvernement, pendant lesquelles il n'y eut pas de crime, pas d'exécution capitale, pas de procès. D'ailleurs, Néron lui-même, un jour qu'on lui donnait à signer l'ordre d'exécution d'un criminel, dit « Je voudrais ne pas savoir écrire ».
Oui, et alors, ces 5 années se terminent par l'assassinat d'Agrippine. Alors, quels sont les éléments de cette affaire ?
Eh bien, je crois qu'encore une fois, il faut chercher la femme. C'est le résultat d'une rivalité féminine, avec aussi d'autres facteurs naturellement. La femme, c'est Poppée. Poppée, dont Néron est devenu amoureux, qui est une personne expérimentée, qui fait ce qu'elle veut du jeune empereur, et qui est hostile à Agrippine, qui est en somme sa belle-mère. Aussi longtemps que Agrippine serait vivante, Poppée savait que Néron ne pourrait pas l'épouser. D'autre part, Agrippine, qui avait porté Néron au pouvoir pour gouverner à travers lui, Agrippine n'était pas raisonnable. Elle menaçait à chaque instant son fils de provoquer un soulèvement des armées fidèles à Germanicus, et Néron croyait certainement, à tort ou à raison, peut-être à raison, que Agrippine pouvait provoquer des catastrophes sérieuses. Et ce garçon faible, qui avait peur, au fond, dominé par la crainte, s'est laissé aller à commettre le crime le plus abominable, qui lui semblait la voie la plus facile, faire assassiner sa mère.
Et c'est le début d'une autre ère dans le gouvernement de Néron.
Oui, d'abord parce que la disparition d'Agrippine laissait la route libre à Poppée, et qu'avec Poppée, une autre faction, une autre coterie commençait à devenir puissante dans l'Empire. Burrus mourut, et la majorité dans le Conseil passa aux amis de Poppée avec Tigellin, etc., l'un des nouveaux préfets du prétoire. L'influence de Sénèque décrut et le système de gouvernement changea, c'est-à-dire que, au lieu de s'appuyer sur le Sénat et les magistrats de tradition républicaine, les nouveaux conseillers du prince le poussaient à s'appuyer plutôt sur les affranchis impériaux, les bureaux de la maison impériale, et par conséquent à renier la tradition augustéenne.
Quelles ont été les conséquences de ce changement de, style ?
Les conséquences, ça a été d'abord un raidissement de l'opinion publique contre Néron. Les sénateurs qui se trouvaient ainsi mis dans l'opposition, et puis les dignitaires de la cour et certains éléments militaires qui reprochaient à Néron des extravagances, c'est-à-dire le fait de paraître au théâtre, de chanter en public, de conduire des chars comme un aurige, n'est-ce pas ? Alors tout ça ramassa les mécontents et ça fut la conjuration de Pison, à laquelle Sénèque fut mêlé. La conjuration fut découverte et Néron, stupéfait, entouré d'ailleurs de ses pires conseillers, procéda à une immense purge, à un massacre de tout ce qui comptait pratiquement à Rome, si bien que le régime qui jusque-là avait été d'abord bon, puis un régime tolérable, devint tout d'un coup un régime exécrable.
Il a été surpris par cette conjuration, il n'avait pas conscience que sa popularité...
Non, il me semble, là naturellement on arrive à des jugements assez subjectifs, mais il me semble que Néron était un garçon qui avait besoin d'être aimé et qui ne pouvait pas croire qu'on ne l'aimait pas. Vous savez, à la fin de sa vie, c'est Suétone qui nous le raconte, quand les armées s'étaient soulevées, il avait formé le projet extravagant d'aller voir les soldats, de se dresser devant eux, de pleurer, de les supplier, et il pensait que les soldats se laisseraient fléchir, pleureraient eux aussi, et que tout le monde reviendrait à Rome en chantant des chants d'allégresse.
Et il a été dépassé par les événements,
oui,
et en particulier par une fraction du Sénat. Que représentent les gens politiquement qui sont groupés autour de Pison ?
Autour de Pison, au fond, pas grand-chose. On avait choisi Pison parce qu'il était un des noms les plus anciens. Mais il semble bien que le souhait des conjurés avait été de porter non pas Pison, mais finalement Sénèque lui-même au pouvoir. Seulement, ça présentait des difficultés. Parce que tandis que Pison appartenait à la vieille aristocratie romaine, Sénèque, lui, était d'origine provinciale. Alors, aux yeux de la plèbe, le prestige de Sénèque aurait été mince. Et puis c'était un vieillard. Et puis ce n'était pas un homme très populaire. Il n'avait jamais courtisé le peuple. Seulement, pour les sénateurs, il était le symbole de toutes les vertus impériales, c'est-à-dire la clémence, la sagesse, la raison que bafouait naturellement Néron avec ses extravagances. Il était ce que plus tard, après les Flaviens, le peuple romain et le Sénat rechercheront dans un homme comme Nerva et puis après dans un homme comme Trajan.
Et Sénèque était-il prêt à prendre le pouvoir ? Envisageait-il de prendre le pouvoir ?
C'est une question, on se la pose toujours, traditionnellement. Il semble bien que Sénèque ait été prêt à assumer le pouvoir au moins d'une manière temporaire. Il était persuadé que le philosophe, les stoïciens, avaient pour vocation de servir les hommes, et certainement que si on l'avait appelé à servir, il l'aurait fait.
Bien, alors Néron vient à bout de la conjuration de Pison, et il se retrouve le maître de l'Empire. Est-ce qu'il en est vraiment le maître ?
On n'a pas cette impression. Il profite du fait qu'il est effectivement, théoriquement, le maître pour se rendre en Grèce et là jouer une aventure assez extraordinaire de vainqueur, d'olympionique, de vainqueur aux Jeux Olympiques. Il fait représenter tous les Jeux la même année pour pouvoir recevoir le prix à tous. C'est une aventure à la fois puérile, grandiose, romanesque. Et pendant ce temps-là, il laisse la réalité du pouvoir à ses affranchis à Rome. Et quand on le rappelle, il répond « Je ne peux pas revenir parce que ma gloire n'est pas encore complète. »
C'est un empereur qui ne gouverne pas, dans le fond.
Non, il a été témoin, au fond, de ce qui se passe autour de lui. Il a, de temps en temps, donné des ordres, mais cela n'est pas gouverné. Il a été pris dans une évolution qui le dépassait, l'évolution qui tendait à éliminer la vieille monarchie, le vieux principat julio-claudien, avec toujours cette réserve, ce capital de charisme qu'il tenait de César, mais qui commençait à s'user. Et au fond, il a été le dernier d'une lignée qui n'avait plus sa place sur, disons, le trône du Palatin.